Vous êtes sur RTL.
49 le kilo.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc notre ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.
Bonjour Jean-Pierre Raffarin.
Bonjour et bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Demain, conférence de presse d'Emmanuel Macron. C'est un moment politique majeur pour son quinquennat. Vous lui faites confiance pour trouver la réponse adéquate ou le doute s'est installé?
Moi, je fais confiance. Je fais confiance parce que il est le seul aujourd'hui à être capable de bâtir un plan d'action qui peut rassembler les Français et puis nous sortir des difficultés. Disons que d'abord, la question majeure, pour moi, c'est la question européenne, avec la déconstruction de l'Europe, avec le Brexit, avec les difficultés que nous avons partout. Tout ça, c'est un dossier énorme. Je pense qu'ensuite, il faut modifier un peu nos institutions, parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de blocages. Donc là, j'attends des propositions. Moi, personnellement, j'avais proposé, par exemple, qu'on déconnecte le mandat de député du mandat de président, avec un mandat à 4 ans, des initiatives de cette nature.
On frappe le changement de calendrier. Oui.
Voilà, il faut des mesures sociales. Ce qui a été annoncé sur l'indexation des retraites, je crois que c'est très important. Je pense que ce qui a été aussi annoncé sur la défiscalisation des heures supplémentaires sont des sujets importants. Je pense qu'il faut aussi travailler sur un troisième acte de la décentralisation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de ce grand débat et je pense que c'est opportun maintenant que le président trace la route.
Alors, il y en a beaucoup qui disent, d'ailleurs Gérard Collomb à votre place, le maire de Lyon le disait il y a une semaine, des mesures qui seraient égrenées, ça ne suffit pas, il faut un cap, il faut une vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule incantatoire? Et d'ailleurs, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'aujourd'hui, il manque un cap, une vision?
C'est vrai que partout dans le monde, on a le sentiment qu'il y a une perte des repères. C'est vrai quand même qu'on a le sentiment que les esprits deviennent de plus en plus confus.
Mais on y répond comment ? Par des mesures que vous avez citées ?
Je crois qu'il faut une vision et que pour nous, la vision, elle est naturellement européenne. On voit bien aujourd'hui que les États-Unis sont engagés dans une déconstruction de l'Europe. Ils nous posent des problèmes partout. Quand je vois qu'ils empêchent les entreprises françaises d'aller travailler en Iran, c'est inacceptable. Je vois que le Brexit, ça avait quelque chose de très difficile, y compris pour nos questions de sécurité, parce qu'avec les Anglais, on avait des proximités de renseignement, par exemple, qui étaient très importantes. Donc, on voit qu'on a des difficultés majeures aujourd'hui. Il faut réformer l'Europe, il faut donner à l'Europe un nouveau leadership. Angela Merkel n'est plus le leader pour les 10 années qui viennent, donc il faut créer une dynamique européenne. Tout ça, ça va être très difficile. Je pense que le cap, il est européen.
Mais c'est ça que les Français attendent demain. Vous savez, c'est la réponse demain. C'est la fin du grand débat, c'est la réponse à une crise qu'ont créé les Gilets jaunes, ça date de novembre dernier. Demain, il doit parler aux Gilets jaunes,
je ne pense pas, je pense que la crise, elle est bien plus profonde que cela. Les Gilets jaunes sont une expression d'une partie de la crise, mais il y a une crise des
territoires. Ça n'est pas la réponse aux Gilets jaunes demain.
Il faut tenir compte, par exemple, de la partie territoriale de cette crise que les Gilets jaunes ont exprimée. Mais quand vous voyez les autres pays, dans le monde entier, il y a aujourd'hui une sorte de perte de repères. Regardez la montée de la violence. Ça ne veut pas dire que les sociétés sont en bonne santé. Regardez aujourd'hui comment on est en train de légitimer la violence partout.
Mais dans ce contexte, Emmanuel Macron, il est quand même affaibli, Jean-Pierre Raffarin.
Bien sûr qu'il est affaibli parce qu'aujourd'hui, tous les régimes politiques...
Sa méthode est rejetée, sa personne est rejetée.
Regardez, il a été élu président de la République dans des conditions extrêmement rapides. Mais ça a l'air d'être une règle mondiale aujourd'hui. Vous avez un président de l'Ukraine qui vient d'être élu parce qu'il y a 2 mois, il était à la télévision, et il est venu d'un seul coup s'imposer. Celui qui a failli gagner en Israël, il était aussi débarqué en 2 mois. Donc au fond, nos systèmes politiques sont aujourd'hui bouleversés, le monde est devenu extrêmement violent, les gens ont en grande partie peur, et la peur est mauvaise
conseillère. Et donc il faut s'accrocher à Emmanuel Macron. Dans ce contexte, c'est à lui qu'il faut faire confiance.
À notre République, à nos valeurs, à notre civilisation, à ce que nous avons
pour
reprendre confiance en nous, parce qu'il est démocratiquement élu, et que nous avons un système démocratique qui fait qu'il faut respecter nos institutions parce que le désordre ne conduit nulle part.
On revient, si vous me permettez, j'allais dire au plancher des vaches, non, à la réalité des Français. Vous avez dit effectivement, réindexation des retraites, c'est une bonne initiative s'il le confirme demain.
Bien sûr.
Il pourrait aussi évoquer une baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Vous achetez aussi, si
bien
je peux
sûr,
dire.
Bon,
l'État n'a pas les moyens pour financer. Emmanuel Macron évoque la suppression des niches fiscales et la nécessité de travailler plus. Monsieur Delevoye, qui pilote la réforme des retraites, affirme ce matin, semble mettre fin au débat sur le recul de l'âge de la retraite. Vous savez qu'il est à 62 ans. Un débat animé par vos amis Darmanin et Le Maire qui sont au gouvernement. Qui a raison dans cette affaire ?
Écoutez, une de ces questions-là, elles sont très techniques. Je crois que de toute façon, il faut bien expliquer aux Français que si on veut maintenir le niveau de cotisation et maintenir le niveau de retraite, de pension, il est clair qu'il faudra travailler un peu plus. Et donc, il est clair qu'il y a de plus en plus de gens qui touchent des retraites et de moins en moins de gens qui travaillent.
Donc, vous êtes pour le recul de l'âge légal de la retraite
de manière modérée, mais je crois qu'il faudra aller dans cette direction. C'est la seule qui me semble aujourd'hui raisonnable pour financer l'avenir des pensions.
Par l'augmentation de la durée des cotisations, une méthode soft ou par le recul de l'âge légal de la retraite?
Je pense qu'il faut reculer l'âge légal de la retraite. C'est de mon avis. On est aujourd'hui avec une espérance de vie qui est bien plus forte que dans le passé. Et donc, ça me paraît être la ligne directrice. Moi, ce que je veux, c'est qu'on maintienne les pensions, qu'on indexe les retraites sur le coût de la vie et donc que l'on protège le niveau de vie des retraités. Il faut choisir. Pour protéger le niveau de vie,
Il faut d'abord supprimer les régimes spéciaux, faire la réforme systémique, c'est-à-dire 1 euro cotisé, 1 euro versé, et après on verra. Vous n'êtes pas de ceux qui disent...
Je ne crois pas cela, parce que c'est un sujet extrêmement difficile. La réaction des Français, je l'ai connue, moi, quand j'ai fait l'alignement des fonctionnaires sur le service privé. Il est clair que c'est une affaire très difficile. Je crois qu'il faut faire la réforme permanente des retraites, et qu'à chaque quinquennat, il faut faire un bout de la réforme.
Donc il faut aller à 63, 64 ans, progressivement, d'ici la fin du quinquennat?
Pas forcément d'ici la fin du quinquennat. Il faut se donner le temps de faire ces mesures, mais pour moi, en matière de retraite, la seule bonne gouvernance, c'est celle de la réforme permanente.
Et la réforme permanente, et pas la réforme systémique dans quelques années.
Pas la réforme idéale, celle qui provoque des chocs.
Non, vous n'êtes pas pour la réforme Delevoye.
J'ai beaucoup de respect pour Jean-Paul Delevoye, avec qui j'ai fait la réforme de 2003 d'ailleurs. Je pense que c'est quelqu'un de très expérimenté. Personnellement, je suis pour une réforme permanente, étape après étape.
C'est clair.
À chaque quinquennat, sa réforme.
Et la suppression d'un jour férié, qui est envisagée pour financer la dépense. Alors ça vous fait sourire. En 2003, après la canicule, vous supprimez le lundi de Pentecôte. Ça a été très chaotique, hein. Finalement, il n'est pas supprimé, mais il y a une journée qui est payée par les entreprises. Ça rapporte 3 milliards à peu près. Bref, est-ce qu'Emmanuel Macron doit s'en inspirer ?
Écoutez, ça a rapporté quand même là, depuis plus de 30 milliards. Et ces 30 milliards, c'est ni de la dette, ni de l'impôt. Donc c'est un effort de solidarité. Donc c'est quelque chose qui a rapporté beaucoup d'argent et qui n'a pas pesé globalement sur les comptes publics. Donc c'est une initiative qui, je crois, à terme, est positive. Et quand je vois que maintenant, toutes les maisons de retraite ont des salles réfrigérées, je me dis que tout cet argent a été bien utilisé. Donc c'est une démarche, naturellement, qu'il faut faire avec modération, parce que je me souviens de la contestation des Français, et
modération, ça veut dire quoi?
La contestation des Français.
Ah, oui.
J'ai dit modération, pardon. Je me souviens de la contestation qui n'était pas modérée des Français. Et donc
il faut y aller mollo pour parler de façon extrêmement familière.
Voilà, vous dites les choses très clairement.
On écoute un de vos amis ou anciens amis tout de suite.
Voilà que l'on apprend que la tête de liste d'En Marche, dont le seul programme expliqué à ce stade était de battre le Rassemblement National, est en réalité une ancienne militante d'extrême droite. Peut-on encore accorder le moindre crédit à Madame Loiseau après cela?
Laurent Wauquiez, président de LR, hier en meeting aux côtés de François-Xavier Bellamy, il évoque évidemment le fait que Nathalie Loiseau, on a exhumé sa candidature sur une liste qui flirtait de très près avec l'extrême droite quand elle était à Sciences Po. Bref, elle a plaidé l'erreur de jeunesse. Dont acte, ou ça la disqualifie, ça l'affaiblit en tout cas.
Bon, je trouve que toutes ces remarques ne sont pas tout à fait à la hauteur du débat. Moi, je ne veux pas me mettre dans ces polémiques. Vous savez, Nathalie Loiseau, comme beaucoup de candidats souvent, elle est victime de la stratégie de l'embrouille. L'embrouille, c'est jeter la confusion contre la clarté. La clarté, c'est que Madame Loiseau a toujours été dans le bon camp quand l'extrême droite a menacé la République. À 20 ans, elle était gaulliste. Et en 2002... quand il a fallu choisir entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, elle a choisi Jacques Chirac. Et en 2017, quand il a fallu choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, elle n'a pas prôné l'abstention.
Elle n'a pas eu d'ambiguïté.
Elle a choisi Emmanuel Macron.
On vient d'entendre, c'est ça
donc,
que vous dites.
Pour moi, voilà la clarté. Et j'oppose la clarté à l'embrouille. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, Madame Loiseau porte un message européen majeur. C'est la liste la plus européenne. L'Europe est en crise majeure. L'Europe est en train de se déconstruire avec le Brexit et beaucoup d'autres initiatives. Et c'est pas dans 5 ans. Je prends l'exemple de M. Bellamy, que je ne connais pas, mais qui a sans doute des qualités. Il va lui falloir au moins 3 ans, voire 5 ans pour avoir de l'influence en Europe. Or, la présidence de l'Union européenne, c'est dans le trimestre
qui
vient.
Vous dites que son influence sera donc, bullshit quoi, au Parlement, c'est ça ?
Je dis qu'un jeune qui arrive sur la scène internationale, quand on a besoin de leadership, qu'est-ce qui va décider demain du président de la Commission ? Qu'est-ce qui va décider demain du président de la Banque centrale ? C'est M. Macron, c'est Mme Merkel. Affaiblir M. Macron aujourd'hui, c'est affaiblir la France en Europe. Et donc, moi, je ne suis pas favorable à ce que fait M. Macron sur la politique intérieure.
Excusez-moi, Jean-Pierre Raffarin, c'est une forme de raisonnement transitif. Il ne faut pas affaiblir Macron, sinon on affaiblit son pays, sinon on affaiblit l'Europe. C'est plus défensif que dynamique.
La question, c'est très offensif. Est-ce qu'on veut la présidence de la Commission européenne ? Est-ce qu'on veut la présidence de la Banque centrale ? Et ça se discute avec qui, ça ? Ça se discute entre Macron, Merkel et les autres. Et Macron, il a besoin, naturellement,
Angela Merkel, elle n'est pas très pro-Macron en ce moment, vous avez vu. Mais comme l'Allemagne, quand même, a envoyé des signaux négatifs.
On respecte en Europe la France, on respecte la
vous
France.
Vous le pensez vraiment,
si
elle n'est pas seule, la France.
Si les Français affaiblissent la France, il n'y a aucune chance que la France se fasse entendre. L'intérêt des Français, c'est de rassembler derrière leurs institutions dans une négociation internationale. Sur le plan interne, quand il s'agit d'objectifs internes, on dit ce qu'on a à dire. Quand il s'agit de rapports de force internationaux, on est rassemblés derrière celui qui nous représente, parce qu'on a des intérêts à défendre. Je milite aujourd'hui pour la paix. J'ai monté une organisation Leader pour la paix qui va rassembler
Leaders for Peace et qui se réunit mi-mai, je crois, à Paris.
13 et 14 mai. On va faire des propositions de réforme. On a un rapport rédigé par l'ambassadeur Pierre Vimont qui va être discuté par 30 leaders, des anciens premiers ministres, des anciens ministres des Affaires étrangères, des prix Nobel de la paix, etc. Nous allons pouvoir discuter notamment de la réforme des institutions internationales. Moi, je suis par exemple pour une régionalisation de l'ONU. La guerre est menaçante partout aujourd'hui.
Ça
veut dire qu'il faut redonner, par exemple, au continent européen aujourd'hui, de la sécurité. Il n'y a pas de sécurité à l'est de l'Europe.
Il faut une ONU européenne.
Vous avez vu qu'au niveau de la Suède, par exemple, on vient de distribuer dans chaque foyer un petit manuel sur la guerre contre la Russie. Les pays de l'est de l'Europe aujourd'hui sont persuadés qu'on va vers la guerre. Il faut apaiser toute cette région. Et pour cela, il faut du multilatéralisme. Il faut dialoguer avec la Russie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ONU a perdu de la puissance. Le multilatéralisme, il faut le redynamiser. Sans dialogue, il n'y a pas d'avenir. Vous savez, la violence, c'est comme la guerre. Ce sont deux sœurs jumelles. Il faut combattre la violence, il faut combattre la guerre. Et pour cela, il faut choisir le dialogue. Et c'est pas en ayant des positions d'exclusion, des positions de sanction, des positions d'exclusion qu'on peut réussir. Et de ce point de vue-là, se rassembler aujourd'hui en France me paraît le meilleur moyen de défendre les intérêts de la France.
En voilà un avocat de Nathalie Loiseau ce matin et de la liste européenne d'Emmanuel Macron. Juste un tout petit mot, François Fillon et son épouse ont envoyé en correctionnel. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit condamné ou d'une certaine façon, le couple a déjà payé ?
J'écoutais, je ne commande pas les décisions de justice dans cette affaire, je n'ai pas de souhait à formuler que la justice fasse son travail, point final.
Merci Jean-Pierre Raffarin d'avoir été ce matin sur RTL.
Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.